sale.
Dans son violet, son pourpre d'église, qui se suffit bien à lui-même et qui se montre beaucoup, effectivement. Et puis alors, oh, bizarrerie, étrange, les noms des filles de Galactia.
Supporta et Demencia.
Qu'est-ce à dire, Galactia? Ces filles sont si étranges dans votre compagnie qu'elles portent des noms pareils.
Eh bien, ma foi, Supporta est un peintre d'ornementation, très doué, mais d'ornementation.
On dit un peintre?
Oui, un peintre. Ah on dit une artiste, un peintre.
Non, mais... On ne dira pas une peintre.
C'est marrant parce que avant-hier soir, il y avait une femme peintre qui était au spectacle, qui a adoré, qui a dit c'est tout à fait comme ça que ça se passe, qui a évidemment aussi eu des commandes avec l'État ici à Genève, et elle me disait on dit un peintre, on dit une artiste, alors elle disait ça. Dans le texte on dit je suis un peintre, considérez-moi comme un peintre, donc je dis un peintre, mais je ne sais pas ce qui se dit véritablement.
Ça c'est une question de choix à mon avis, hein. On peut très bien dire une peintre, on dit même une peintresse, j'ai entendu ça.
Ouf.
Voilà, c'est bien plus dur. Mais ça dépend, c'est effectivement bon, un peintre, est-ce qu'on garde en fait la fonction simplement au masculin et puis donc on s'identifie à cette fonction, c'est voilà. Et puis bon, mais enfin, ça ouvre la grande question de la féminisation.
Oui,
donc,
ah oui,
voilà.
Et
dans le texte, bon, c'est difficile à dire puisque
en anglais, pas de
voilà.
Ouais.
Voilà. Donc c'est le choix du traducteur d'avoir parfois mis un, parfois même une. Et d'ailleurs, les comédiens, je regarde des fois le texte, improvisent un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que des fois c'est un artiste et des fois c'est une artiste.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme Radio Zone 93.8. Je vous rappelle que nous écoutons l'entretien que j'avais eu avec Anne Bizang et Francis Cacal en janvier 1996. Anne Bizang et Francis Cacal font partie de la compagnie du Revoir. Elles étaient en train de créer la première création du texte Tableau d'une exécution écrit par Howard Barker, un écrivain contemporain anglais, au théâtre de Saint-Gervais. Et ce spectacle est repris du 8 avril jusqu'au 13 avril, encore au théâtre de Saint-Gervais. Et c'est à cette occasion-là que nous réécoutons les propos qu'elle nous avait fait partager en janvier 1996. La voix que vous entendez en ce moment n'est pas celle que vous retrouverez dans le spectacle, puisque c'est un choix contemporain qu'a fait au niveau musical Michel Vinch, qui a composé la musique de Tableau d'une exécution. Mais c'est la voix d'une femme qui s'appelle Maria Cristina Kier, soprano, et qui interprète des compositions de Barbara Strozzi qu'elle a écrites à Venise en 1650. La Venise, la Sérénissime, qui est évoquée au cœur de l'histoire de Tableau d'une exécution.
Et une fille peintre ou un peintre de décoration, donc ça c'est Supporta, bien sûr.
Supporta, oui, ouais, qui elle va évidemment quitter sa mère à la fin de ce travail. Parce que ces filles, elles essayent de les initier, quoi. Elles les fait travailler. Hein. C'est en fait les filles qui peignent. C'est un tableau de 30 mètres de long. Donc, imaginons la surface qu'il faut recouvrir. Donc, évidemment qu'il y a beaucoup de travailleurs dessus. Et ces filles, eh bien, elles travaillent avec elles dans l'atelier. Et alors, Suporta est donc celle
qui a du mal à supporter sa mère. Justement.
Voilà, qui a de la peine à supporter les excès de sa mère. Et qui essaye toujours d'arranger, qui veut toujours que sa mère s'arrange avec le pouvoir et tout ça. Mais pour la mère, c'est impossible. Parce qu'elle veut être fidèle à elle-même, à ce qu'elle croit et à ce qu'elle pense. Et alors, Demencia, elle...
Ouais, c'est un peu la schizophrénie, quoi, disons, plutôt, chez elle. Quoi. C'est,
ouais.
La vie d'artiste et en même temps la condition de ménagère.
De femme au foyer.
L'impossible conjugaison. Ouais. Ouais, de ça.
Elle aime bien s'encanailler dans le monde de la bohème, mais elle ne supporte pas le fait qu'on la regarde voilà, avec les yeux bohèmes, voilà. Etc.
Voilà.
C'est vrai que ce personnage de Galactia pourrait être déjà rien que décrit par les gens qu'elle a autour d'elle, mais on ne va pas lui faire quand même cette idée de dire qu'elle n'existe que par les autres, parce que c'est elle, c'est évident qu'elle est au cœur de la chose et que les autres se situent plutôt par rapport à elle, c'est évident. Mm. Mais ce qu'il y a de fou dans ce personnage qui est censé être donc vénitienne, hein, l'histoire officiellement se place à Venise au moment de la Renaissance, avec des personnages typiques de ce moment-là, donc le doge, le représentant de l'Église, l'armée, enfin vraiment, on baigne dans l'imagerie de cette époque-là. Et pourtant, Galactia, de toute évidence, et je suis sûre qu'aucune spectatrice, aucun spectateur n'a de doute là-dessus, est un personnage très contemporain. Mm-hmm. On n'est pas en train de revivre l'histoire.
Non, en effet.
Alors, comment... C'est vrai qu'on... Et je disais, maintenant, vous nous avez donné ce modèle et nous, on s'y accroche. Et je pense que c'est important. C'est vrai que c'est étonnant de voir ce personnage de femme qu'on retrouve tellement rarement dans le monde théâtral. Il y a des personnages féminins dans certains spectacles, dans certains textes, mais je ne crois pas que beaucoup de femmes s'y retrouvent. Soit c'est des héroïnes, mais qui se sacrifient et qui meurent. Soit c'est des carpettes, elles aussi. Mais on n'est jamais à se dire, ah, mais oui, non, mais c'est incroyable. Non, mais je ferais quand même, mais je... à vivre avec elle à chaque instant et en même temps de se dire, ouais, la belle, elle va jusqu'au bout, mais elle se retrouve toute seule. Et donc ça, c'est vraiment assez étonnant dans ce personnage, la contemporanéité de ce personnage. Comment imaginer, comment vous avez compris que ce soit Howard Baker qui a pu créer ce personnage féminin qui est tellement proche de l'image contemporaine de la femme?
C'est une vision de la liberté, effectivement, très forte. Mais chez Barker, ce n'est pas le seul personnage dans son œuvre qui est comme ça. Hein. Je crois qu'on peut vraiment dire qu'il a un point de vue féministe très clair et très affirmé.
Mais ça, c'est évident.
et c'est vrai que bon, on est toujours surpris quand ça vient d'un homme, mais on ne devrait plus l'être, quoi. Hein, je veux dire.
On devrait dire heureusement que ça existe et s'appuyer fortement
bien
sur.
Bien sûr. Ouais. Enfin, je veux dire, un blanc qui ne se trouve pas raciste, ben on trouve ça normal. Hein. On ne se dit pas qu'il n'y a que les Noirs qui sont sensibles à la question du racisme.
Exactement. Ouais.
Non, mais donc, en fait, c'est un homme moderne, je crois. Je pense Barker, vraiment, au vrai sens du terme. Et cette figure de femme libre, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'elle donne beaucoup de... Elle donne beaucoup de courage. C'est vrai qu'elle... Surtout dans le sens où... On se dit, c'est vrai, on peut encore aller jusqu'au bout de ses idées, on doit le faire. Et on peut le faire aussi avec humour, parce que c'est vrai que ce personnage, il est libre, mais c'est aussi un personnage d'intuition. Donc, c'est pas un personnage militant à travers cette histoire. Hein. C'est un personnage qui a des convictions fortes, viscérales et charnelles. Hein, et c'est pour ça que c'est une figure éblouissante, parce qu'elle est tout.
Quoi, un personnage qui dit oui à la vie, qui dit oui à la vie en entier. Aussi.
Et puis qui arrive à... Bon, c'est ça aussi, ce qui est très, très intéressant dans la pièce, c'est, on parlait des filles, c'est comment Barker a retourné les situations conventionnelles. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est Galaxia, elle a des filles, donc ce sont ses filles qui sont ses disciples, entre parenthèses, entre guillemets. Hein, on a tellement eu cette idée du père qui est le maître et les fils qui ensuite prolongent son œuvre. Là, en inverse, on se dit, mais voilà, c'est possible. Et d'ailleurs, j'ai lu un article concernant Barker où il disait ce qu'il trouvait très intéressant aujourd'hui, c'était de raconter ce qui n'existe pas. Il trouvait ça finalement plus intéressant de montrer ce qui n'avait pas existé aussi dans l'histoire. Mm-hmm. Et ça crée comme ça tout à coup des chocs dans notre conscience. Parce que cette histoire, elle n'a jamais existé. C'est une fiction totale. Et alors, il y a eu des femmes peintres qui ont marqué leur temps par leur talent. Mais bon, regardez les livres de peinture, quand vous trouvez vaguement une femme coincée entre la page 376 et 378, c'est un miracle. Hein. Alors que, bien sûr, elles ont aussi une...
On essaye maintenant de rattraper, de compenser en faisant des livres que sur certaines femmes. On a l'impression que c'est un tel rattrapage.
Et aussi son rapport aux hommes. C'est vrai que ce Carpetta qu'on évoquait tout à l'heure, cet amant, qui est lui... alors tout le contraire d'un homme libre, puisqu'il est enchaîné par sa passion pour Galaxia et par son mariage avec sa femme, qui n'apparaît pas, mais dont on entend parler. Et puis, c'est vraiment l'homme-objet, quoi, lui, en l'occurrence.
Le pauvre, oui. Et vous l'utilisez vraiment, y compris dans les images, comme homme-objet. Les premières scènes sont très évocatrices. Mais je crois que ce qu'il y a aussi de fascinant, c'est que... On sent que si rien n'est peut-être vrai dans la réalité, en même temps, tout ce qui est dit est incroyablement un écho de toutes les questions qu'on se pose dans la réalité aujourd'hui. Et je ne sais pas si quelqu'un se demande si Galatia a vraiment existé, ou si, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas s'empêcher de se dire ce que les affrontements qu'il y a entre elle et le Doge, même si ce n'est pas à couteau hein, et à arme tirée, les discussions qu'il y a entre son amant et elle, et même les affrontements de son amant et elle, les ragots, les coups d'éclat parmi le monde de ses amis artistes, etc. Tout ça, on se dit non, mais c'est évident, c'est tellement ça. Et je dois avouer que je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner plusieurs fois pour voir mon voisin qui était à 3 sièges plus loin que moi, qui est un des responsables de distribution d'argent dans notre République. Et je me disais, comment il ressent ça? Parce que c'est tellement, tellement vrai.
Quoi? Pauvre vie. Vous êtes une artiste et moi un homme politique. Nous avons tous deux nos petites manies, nos façons de parler, nos croyances. Aucun de nous ne voudrait y renoncer, c'est normal. Mais afin d'amener un peu de compréhension, je suggère que nos sessions s'estimalent et que nous nous concentrions sur les faits. Des faits simples et incontournables. Mon frère est amiral de la flotte et il n'occupe pas une place assez importante dans la composition de cette étude. Bien. Vous voyez, j'ai des yeux, je regarde. Mais aussi, je sens vos peintures. Et l'odeur qui s'en dégage est celle de la sueur. Me trouvez-vous offensant, je suis votre admirateur.
Et votre admiration me comble.
Bien. Mais soyons tout à fait clairs, ceci est une commande officielle. Un investissement. Un investissement fait par nos républiques de Venise en vous, galaxiens. L'Empire et l'Artiste. Aimez-vous ces raisins? Ils viennent de tête. Nous y avons laissé 2000 soldats morts. Mais nous avons les raisins. Petit grain de sable, petit grain d'histoire.
Qu'essayez-vous de me dire?
Je vous dis que nous ne vous avons pas demandé de peindre le mur du fond du presbytère. Je vous dis qu'une peinture de 30 mètres de long n'est pas un tableau, c'est un événement public.
Ça, je le sais bien. C'est pour cela que je suis là.
Bien. Vous êtes ambitieuse et l'ambition est une qualité qui se respecte. Mais elle demande de la souplesse, du changement de perspective. Si vous voyez ce que je veux dire. Mon frère est suffisamment grand sur ce dessin, soit, mais est-il au bon endroit? Quand je vous disais que je ne le voyais pas assez, c'est à cela que je pensais. Vous voyez, j'ai un certain sens de l'humour.
Je vois.
Vous voyez.
Je possède aussi le sens de l'humour.
Signora, votre sens de l'humour est éclatant. Seul une artiste avec un formidable sens de l'humour peut placer un amiral dans un recoin aussi obscur. Malgré sa taille, il ne ressort pas. Il ne domine pas la composition. Ceci est très astucieux de votre part. Malheureusement, l'astuce est une qualité que nous partageons. Soyons sérieux, voulez-vous?
Me reprocheriez-vous ma composition?
Signora, comment pourrais-je faire une chose pareille? Vous êtes l'artiste. Je ne fais que vous rappeler certaines considérations qui sont parfois des priorités. Un grand artiste est avant tout responsable, sinon malgré tous ses coups de pinceau, toutes ses couleurs, si brillantes soient-elles, il ne s'élèvera jamais au-dessus de la multitude des artistes de second rang.
Quiconque la contemplera ne pourra s'empêcher de se baisser afin d'éviter les flèches qui en jaillissent.
Excellent.
Et les enfants en trembleront. Et le fracas des navires qui se partent. Il fera se tirer sous les jupes de leur mère.
Excellent.
Une peinture si bruyante que les gens la regarderont la bouche ouverte en se bouchant les oreilles. Et qu'une fois sortis, ils vérifieront leurs vêtements afin de s'assurer qu'ils n'ont pas été éclaboussés par le sang et les cervelles déchiquetées.
Merveilleux. Vous voyez comme vous êtes passionné, vous êtes magnifique.
Les rendre sans souffle, les rendre pâles d'horreur.
Oui, oui, mais il faut aussi les rendre fiers.
Fiers.
Le grand art est un art qui célèbre. Aimez-vous Venise, Signora Galaxia?
Je suis une Vénitienne.
Soit, mais...
J'ai dit je suis une Vénitienne.
Alors louez Venise. Je pense que j'en ai dit assez. Apportez-moi un autre dessin, dès possible.
Bien sûr, c'est des figures qui sont intéressantes parce qu'elles sont nuancées aussi. Hein. C'est vrai que cette vision du doge, donc effectivement, l'agent culturel, le ministre de la culture que l'on connaît, bien sûr, auquel nous avons souvent affaire, sous des visages différents, il est un vrai amoureux des artistes, d'une certaine façon. Et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point son pouvoir le contraint à un certain rapport avec ces artistes, et qu'en fait, il y a une sorte d'impossible rencontre définitive entre le pouvoir et l'artiste, ce qui crée l'incompréhension, et ce qui peut créer aussi... des malentendus et des rapports de force.
Vous-même, en tant que compagnie du Au Revoir, vous vous êtes retrouvée dans le rôle de Galaxia face aux gens avec qui vous êtes confrontée tous les jours pour exister?
Oui, bien sûr. Oui, c'est clair. Oui. Bien sûr. Et cette envie d'ailleurs d'être dangereux, subversif, au point de souhaiter être mis en prison, de souhaiter la torture telle que le fait finalement Galaxia à un moment donné dans son délire de mégalomanie, parce que je veux dire, personne n'est épargné dans cette pièce, hein, tout le monde reçoit son petit coup de canif.
Ça, c'est la force de Barker aussi.
Donc, c'est vrai qu'on... on se retrouve aussi dans cette situation-là, hein, c'est-à-dire aussi de parano, un peu excessif.
Artiste incompris,
par moment, là, exactement,
opprimé.
Ouais. Juste pour la petite histoire, il y a un sous-doge à Genève qui a fait en sorte que nous ne puissions pas monter ce spectacle avant janvier 1996.
Oui, c'est-à-dire que voilà, il y a des doges partout.
Il y a des doges partout.
Exactement, ça c'est sûr. Alors, justement, le thème de ce spectacle, les thèmes de ce spectacle sont multiples. Celui qui apparaît peut-être le plus fort, le plus évident dans un premier temps, c'est celui dont on vient de parler, ce rapport entre l'artiste et le monde du pouvoir, des mécènes, des distributeurs d'argent, ou des subventionneurs, comme on les appelle aujourd'hui. Mais en même temps, effectivement, on le disait tout à l'heure, par ce biais-là, il y a bien d'autres choses qui sont abordées. Qu'est-ce qui vous intéressait ? La guerre ? De poursuivre la discussion, le débat sur la guerre, c'était une chose importante ?
Ça, c'était une chose très importante, c'est vrai. Le point de vue des femmes sur la guerre, ou disons le point de vue féminin sur la guerre, je ne sais pas, parce que je pense qu'effectivement, il n'est pas partagé que par des femmes, c'est-à-dire l'opposition de très nette de deux principes qui sont en complète divergence sur le propos de la guerre. C'est-à-dire, effectivement, les femmes, on pourrait dire, voient la guerre comme la destruction de la vie, point final, hein, qu'il n'y a aucune justification à la tuerie collective, enfin aucune. Et ça, c'est vrai que c'est très clairement dit dans cette pièce.
Ouais,
très,
très clairement. Ouais. Et alors là, ça suivait très clairement le travail sur les femmes et les enfants d'abord, où on a déjà enclenché très précisément cette réflexion-là sur la guerre. Et on a toujours tenté de faire passer ça auprès du public. Et tout d'un coup, en tombant sur cette pièce-là, c'était extraordinaire, parce qu'on aurait dit qu'elle était écrite exprès pour la compagnie, pour Anne. Parce que c'est tout à fait, c'est tous les thèmes qui reviennent tout le temps dans nos discussions, dans nos débats. On parle toujours de ça. Et c'est vrai que ça, il n'y a aucune justification aux guerres, quoi.
En plus, ce qui est très subtil, je trouve, dans cette dénonciation de la guerre, dans ce texte, c'est aussi, bon, il y a le propos de Galaxia, qui est clair et qui est très net, et puis il y a aussi ce qu'elle arrive à faire dire aux hommes sur la guerre, que je trouve qui est très subtil, hein, de faire à finalement avouer à Prodo, par exemple, ce survivant qui vend sa survivance, hein, normalement. Et puis là, elle finit par lui faire cracher l'horreur qui l'obsède tous les jours. Ce fameux rapport qu'il y a entre hommes et femmes où les hommes dévoilent tellement peu ce qu'ils vivent. Et ça, je trouve que c'est si fort dans ce texte-là.
C'est ça, elle dévoile effectivement la vérité, mais elle met en lumière le mensonge aussi, hein, en l'occurrence, hein, puisque effectivement, il finit par donner les vraies images qu'il garde de cette horrible bataille, tout en finissant par le discours officiel et de dire qu'au fond tout ça était pour la bonne cause, pour la gloire, pour
la liberté,
pour la liberté, pour la
liberté,
contre les mécréants,
les
Turcs mécréants,
les Turcs païens.
mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on a l'impression que les hommes ne veulent pas avouer qu'ils vivent l'horreur. Parce que même l'amiral, si suffisant et si méprisant, des moments, on a l'impression qu'elle arrive le casser. Hein, et c'est une chose qu'on vit parfois dans la réalité aussi. Qu'on peut arriver finalement à faire se fracturer ce mensonge, mais qui est un mensonge de protection, quelquefois.
Qui est un mensonge de protection, mais qui est aussi, un mensonge, je dirais, un peu culturel, je dirais, dans si on accepte l'idée de culture féminine, de culture masculine, hein, de code. Et c'est vrai que les hommes, et je pense que c'est aussi ce qu'on peut percevoir dans cette pièce, sont enfermés dans des rituels qui s'engendrent les uns les autres, quoi, et qui n'en finissent pas, et qui font qu'effectivement, peut-être... Ils perdent le rapport avec des choses essentielles comme la violence, comme la douleur. Effectivement, à un moment donné, cet amiral Soufici découvre le tableau et il semble découvrir à travers le tableau l'horreur de la guerre, l'horreur de la mort, hein. Comme si c'était une chose qui, effectivement, n'était pas parlée, donc jamais évoquée aussi dans certains schémas de pouvoir.
Comme on le disait tout à l'heure, Howard Barker utilise un humour décapant pour parler de tout ça. Ce n'est pas dramatique comme tel, on n'est pas, on pleure pas, on réalise à chaque coup ce qui est dit, mais par une sorte d'humour noir et on rit jaune par moment. Est-ce que c'est un choix très particulier ça ? Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que je croise Francisca de temps en temps et j'ai trouvé que ce personnage était vraiment écrit pour elle. Parce qu'il lui correspond un petit peu. Est-ce que c'est un petit peu vrai, Francisca ?
Eh bien, moi, je dois d'abord dire que j'ai un plaisir fou à interpréter ce personnage, que Anne a pensé la même chose que toi. Et que quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai été complètement fascinée, quoi, complètement prise. Et ça y est, je me perds.
Fais pour toi.
Oui. Ouais. Fais pour moi. Moi, ce que j'adore, j'aimerais quand même dire ça sur Barker, ce qu'il y a de magnifique dans cette écriture, c'est que c'est un théâtre de rupture. C'est qu'on passe d'une chose à l'autre, tac, tac. C'est rapide, c'est vif, c'est une implication totale dans une chose, mais ensuite, il y a des renversements qui se font. Enfin, c'est comme des taches de couleur, quoi. Elle passe vraiment par des tas d'états. Mais en même temps, elle garde une ligne. Elle avance. Elle va jusqu'au bout des choses. Et je trouve ça magnifique, quoi. C'est absolument magnifique. Et oui, en effet, moi, j'ai envie de m'identifier à ce personnage, quoi. Il n'y a pas de doute. Je prends, je me nourris d'elle. Elle se nourrit de moi aussi, bien sûr. C'est vraiment une joie, quoi. C'est une joie de faire ça.
Parce que ce personnage qui, à la fois, a des moments d'exubérance fou, de sensualité folle, et puis en même temps, tout à coup, ces moments d'aparté comme ça, où elle parle de ce qu'elle ressent à l'intérieur, ça permet un jeu, mais qui est un jeu, j'ai l'impression, te correspond dans la réalité. Hein, un petit peu. Mm-hmm. Est-ce que c'est nécessaire pour jouer un personnage de s'y retrouver un petit peu, ou parfois on a besoin d'un opposé total ?
Je crois que c'est très important déjà de partir de soi. Hein.
Ouais.
C'est vrai qu'en même temps le personnage pouvait être un peu effrayant a priori hein, quand même.
Parce que c'est un monstre.
Hein. C'est un monstre, oui. Et donc c'était très important que dans le travail on parte bien effectivement des qualités de Francisca, quoi, de son tempérament à elle, de son regard, et qu'on le développe et qu'on le fasse finalement se rejoindre ces deux personnalités.
Et ça, dans ce sens-là, le rôle de la... Alors, comment tu dis, toi, metteur en scène, metteuse en scène, quelle est la féminisation du mot ?
Moi, je dis metteur en scène, metteur en fait.
Hein, en scène, voilà. Alors, dans ce sens-là, quel est le rôle de la metteur en scène ? Comment tu conçois ton rôle et comment tu le ressens, toi, Francisca ? Est-ce que c'est justement de faire s'éveiller les sens et tous les talents de l'acteur qui se mélangent à ce que toi, t'avais imaginé ? Mm-hmm. Et puis, il y a bien sûr ce qu'a proposé, je suppose, encore l'auteur dans tout ça.
Moi, j'imagine en fait une trame, j'imagine un cadre, mais j'imagine pas forcément les personnages, justement. J'aime mieux être surprise par la forme qu'ils vont prendre dans les discussions qu'on va avoir à trois, finalement, c'est-à-dire le personnage, le comédien et moi-même. Et c'est un travail, vraiment de peinture, au fond, aussi, avec des couches successives, pour arriver à quelque chose qui ne soit jamais artificiel, qui soit toujours authentique. Hein. Et surtout sur une écriture comme ça, qui, a priori, peut être un peu exubérante, mais qui nécessite une vraie authenticité. Quoi. Donc, c'est un travail d'attention à ce qui vient, et ensuite, on essaie de développer, on retient des choses, on les cadre, on les précise. Mais c'est un travail, je dirais, vraiment de... Oui, c'est de partenariat. Enfin, on est plusieurs à travailler. Moi, je me sens toujours très impliquée dans la progression d'un rôle. Hein. C'est-à-dire si le personnage n'émerge pas, s'il ne se passe rien, je me sens vraiment coupable.
Et toi, Francisca, en tant que comédienne, qu'est-ce que tu attends du rôle de la metteur en scène pour ce qui est de votre histoire en tant que comédie du revoir ?
Alors,